Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Happy Radio. Si vous m'entendez, c'est que vous nous écoutez en podcast sur happyradio.fr. Sinon, vous entendez la voix de Nicolas Seignobosque dans notre journal local. Monsieur Seignobosque, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il est très important pour la ville de Bergerac, chef de la caserne des pompiers, occasion de mettre ses valeureux hommes et valeureuses femmes en avant. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Première question, je la pose à tout le monde, elle me semble importante. Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça va très bien, c'est le mieux. Nous, on est à Happy Radio, on aime quand les gens vont bien. Pouvez-vous vous présenter, vous, votre parcours un peu, et la caserne également, comment vous en êtes arrivé là finalement ?
Donc je suis le commandant Nicolas Seignobosque, je suis le chef du centre de secours principal de Bergerac. C'est ma cinquième année à ce poste. Auparavant, j'étais affecté dans le département du Doubs et j'ai commencé ma carrière dans la Somme en 2003.
Vous avez un peu voyagé donc ?
Oui, un petit peu.
Et vous êtes originaire d'ici ou non justement de...
Je suis originaire de la Drôme.
De la Drôme, ok. Pouvez-vous dire combien il y a de personnes à la caserne ?
La caserne des pompiers de Bergerac comprend 55 sapeurs-pompiers professionnels, 70 sapeurs-pompiers volontaires de la filière incendie et on a une quinzaine de sapeurs-pompiers volontaires de la filière de santé et de secours médicaux. Et c'est tout ce personnel-là qui réalise environ 5800 interventions pour 2024, en tout cas 5800 interventions par an.
Ça fait quand même un sacré nombre.
Oui.
Et ça, c'est une question un peu personnelle, mais je me demande, il y a combien de véhicules d'intervention dans votre caserne ?
Oh, il y a plus d'une vingtaine de véhicules, si on compte les véhicules de liaison divers et variés. Et on a à Bergerac des spécialités comme le grimpe, comme les plongeurs, comme les drones. Donc, ce qui nous fait des véhicules complémentaires. On a également la spécialité risque chimique.
Donc, vous êtes assez complet, en effet,
oui.
En termes d'équipement. J'ai parlé des personnels, vous en avez parlé. Quels sont les... C'est vrai qu'on entend sapeurs-pompiers professionnels. Quelle est la différence entre tout ça ?
Bah écoutez, il n'y a aucune différence. Ce sont tous des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers professionnels, ce sont des agents qui sont fonctionnaires territoriaux. C'est leur travail. Et les sapeurs-pompiers volontaires font ça en plus de leur travail. Mais sinon, les missions sont les mêmes.
Sont les mêmes. Et les pompiers, parce qu'il y a pompiers, pas sapeurs-pompiers, non ?
C'est la même chose. C'est le langage au courant enlève le mot sapeur pour parler de pompiers, mais on parle des mêmes personnes.
Ok, d'accord. Non, mais c'était important parce qu'on entend un peu ces différents termes. Donc, un petit point important. On vous a contacté à la suite d'un petit papier de recrutement dans la boîte aux lettres d'Happy Radio qu'on a trouvé. Je suppose que dans ce métier, c'est toute l'année que vous recherchez finalement.
Oui, tout à fait. Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, c'est tout au long de l'année qu'il se réalise. Alors, il faut quand même différencier les secteurs urbains des secteurs qui sont plutôt ruraux. En zone urbaine, comme on peut l'être sur Bergerac, c'est vrai que le recrutement nous pose, de pompiers volontaires, je parle, nous pose pas trop de problèmes. On a la chance d'avoir très régulièrement... dans la boîte aux lettres de la caserne, des demandes d'intégration en qualité de sapeur-pompier volontaire. La problématique se pose malheureusement beaucoup, beaucoup plus en zone rurale, où là, malheureusement, le recrutement de sapeur-pompier volontaire est très, très compliqué, ce qui peut parfois mettre les centres de secours dans des difficultés pour assurer la distribution des secours.
En effet, on en avait parlé avant de réaliser cette interview. Le mieux serait que tout le monde soit dispatché, on va dire, un peu partout.
Oui, il faudrait un meilleur équilibrage dans les centres de secours, mais malheureusement, voilà, les candidats potentiels au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires sont localisés dans un secteur et sont donc affectés dans le secteur de proximité de la caserne. Donc, c'est pour ça que ça crée des déséquilibres.
J'imagine. Après, pour la période, je suppose qu'avant l'été, c'est quand même là où vraiment, avant... Je ne le souhaite pas, évidemment, et je suppose que vous aussi, mais avant des probables incendies, c'est là vraiment la période quand même où il y a sûrement du monde à aller chercher.
Alors, pas forcément. Comme je vous le dis, on recrute toute l'année. Il faut bien prendre en compte que quand on rentre sapeur-pompier volontaire, quand on signe son arrêté d'engagement, s'ouvre ensuite une période de formation d'environ 6-8 semaines en fonction de l'affectation de l'agent. Donc le cursus de formation est quand même assez important. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas partir sur intervention. Donc on va dire que sapeur-pompier, en moins d'un an, peut acquérir des compétences qui lui permettent de partir notamment pour le secours à personne, ce qui représente 80% de notre activité, ce qui est donc loin d'être négligeable. Et il a 3 ans maximum pour se former aux autres domaines d'activité qui sont l'incendie, l'opération diverse et le feu de forêt. Pour revenir à votre question.
Et donc c'est fait finalement séparément, c'est une formation tout du long de différentes années.
Oui, tout à fait, donc c'est des formations qui sont réparties tout au long de l'année et également un petit peu de partout dans le département de la Dordogne. Et pour coller aux disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires. L'offre de formation propose à la fois des formations en week-end, propose des formations en semaine bloquée, en vacances scolaires ou hors vacances scolaires, pour que tout le monde, en fonction de ses contraintes, puisse trouver des périodes pour aller se former. Et bien évidemment, ce n'est pas consécutif, c'est-à-dire qu'on se forme d'abord au secours à personne. C'est un stage qui dure 2 semaines. Et après, on va se former 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois après à l'opération diverse, ensuite à l'incendie, puis au feu de forêt.
Et justement, sur ces recrutements, est-ce qu'il y a une cible déjà d'âge, de personnes, ou c'est vraiment tout
Alors oui, dans l'idéal, la cible, c'est d'aller chercher des personnes qui sont installées dans la ville ou dans le village, si possible avec des enfants. Alors ça reste des statistiques, mais ce profil-là, on le sait, on le garde plus longtemps. Voilà. En dehors de ces aspects théoriques, honnêtement, à partir du moment où les gens remplissent les conditions, tout le monde peut se présenter au recrutement.
Oui, j'imagine, vous n'allez pas dire non. Plus il y a pompiers, mieux c'est finalement. Voilà. Donc on a parlé de ceux qui avaient des enfants et tout, mais les jeunes, on sait que sapeurs-pompiers, il y en a beaucoup qui sont intéressés. C'est toujours le cas ou pas ?
Ouais. Oui, on a toujours une population de candidats qui sont quand même relativement jeunes. Ils s'intéressent toujours, ça attire toujours. Oui, là-dessus, ça ne change pas.
Non, mais c'est très bien et c'est important quand même que les jeunes soient motivés toujours par ce métier, ce beau métier. S'il y en a une, quelle est la journée type d'un pompier ou d'un chef de caserne, selon votre expérience ?
Oh, je vais vous donner la journée type d'un pompier qui fait les interventions, parce que la journée type du chef de centre, elle sera finalement peu intéressante à entendre. La journée type d'un sapeur-pompier en garde à Bergerac, il prend son travail à 7h. On commence par un rassemblement, au cours duquel on vérifie les présences, on distribue les piquets opérationnels. S'ensuit une période de vérification du matériel et des engins. Et ensuite, on enchaîne la journée avec la manœuvre, le sport, qui nous amène jusqu'à midi. Et les après-midi, ce sont les travaux dans les services. Et ensuite, on passe en garde simple. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, tout ce que je viens de vous dire est ponctué par les interventions quotidiennement, bien sûr.
Et vous venez de nous dire que vous, ce ne serait pas intéressant. Pourquoi vous, qu'est-ce que vous faites réellement quand même ?
Bien parce que sur les fonctions d'encadrement, moi, comme mes collègues officiers de centre, on est sur du travail administratif en horaire, entre guillemets, de bureau. On sait que quand on prend ces postes-là, on s'éloigne un petit peu de l'opérationnel pour plus faire les parties administration, encadrement, management du centre.
C'est finalement, oui, vous gérez le centre de manière administrative.
Tout à fait.
J'ai une question qui va intéresser tout le Bergeracois après tant d'années d'attente. La nouvelle caserne devrait, on va mettre des guillemets, arriver en fin d'année. Vous devriez déménager en fin d'année dans cette nouvelle caserne. Il y avait vraiment une utilité d'avoir cette nouvelle caserne, ce vent frais ?
Oui, alors effectivement, il y avait vraiment une utilité puisque les locaux actuels sont des locaux qui ont subi, je crois, d'après ce que j'ai compris et retenu, au moins 3 agrandissements successifs. Et aujourd'hui, ce sont des locaux qui sont tout simplement trop petits. On a des engins qui sont obligés de dormir dehors parce qu'on n'a plus la place dans les remises véhicules. Et puis, tout bêtement, on n'a plus suffisamment de place en termes de sanitaire. Bon, la cuisine et le foyer sont à peine suffisants pour que tout le monde puisse manger en même temps. Ces locaux-là ont été, donc, comme je vous le disais, ajoutés les uns après les autres. Il n'y a pas forcément une logique en termes de gain de temps. Il faut monter pour descendre et descendre pour monter. Mais c'est vrai, à un moment donné, il faut descendre des escaliers pour en monter d'autres. Donc voilà, il n'y a rien qui est très logique. On n'est pas sur des locaux qui sont comme peuvent être aujourd'hui les nouvelles casernes, pensées pour la rapidité et la simplicité de départ en intervention.
Oui, donc ça sera dans de meilleures conditions.
Ça sera le jour et la nuit.
Et en plus, ils seront tout neufs, tous ces nouveaux locaux, donc on espère qu'ils arrivent en fin d'année, c'est ce qui est prévu.
Oui.
Dites-moi si je me trompe.
Oui, non, vous ne vous trompez pas, c'est effectivement ce qui est annoncé. Alors bien évidemment, c'est comme toujours dans le cadre de travaux conséquents comme ceci, c'est sous réserve des différentes problématiques qu'on pourrait rencontrer dans le cadre du calendrier de construction. Mais enfin, pour ceux qui sont passés dans la zone artisanale des Sardines et qui, au lieu de prendre à gauche au rond-point, ont jeté un coup d'œil à droite, ont vu quand même sortir de terre un bâtiment qui est plutôt joli. Alors, qu'il soit joli, c'est une chose, mais qui en plus fonctionnellement sera vraiment, vraiment adapté. La livraison est toujours prévue pour la fin d'année et l'intégration dans les locaux est aussi toujours prévue pour la fin de l'année. Après, s'il y a quelques semaines ou mois de report, ce n'est pas grave parce que je crois que ça fait une vingtaine d'années que le projet était en attente. Donc, s'il faut attendre 1 ou 2 mois de plus, c'est pas grave.
Ouais, ça vaut le coup d'attendre un peu. Un, 2 mois de plus, en effet, après ces 20 ans d'attente. Une dernière question, c'est sur la situation, de travail des pompiers. Comment elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'un pompier arrive suffisamment à vivre ? On sait que c'est assez compliqué les temps pour un peu tout le monde. Est-ce que Pour un pompier, ça va ou c'est compliqué?
C'est pareil, il faut bien différencier les deux situations. Hein. Il faut bien différencier la situation des sapeurs-pompiers professionnels, hein, qui sont des fonctionnaires territoriaux, donc c'est leur métier. Donc là-dessus, au niveau du salaire, la question ne se pose pas. Pour ce qui est des sapeurs-pompiers volontaires, on l'explique à tous les candidats au recrutement, ce n'est pas un métier. C'est une activité que l'on fait en plus de son métier. Et on insiste bien sur le fait qu'il ne faut surtout pas baser, on va dire, sa vie autour de ça. Et notamment, il ne faut pas prendre en compte les indemnités, parce que les sapeurs-pompiers volontaires sont indemnisés quand ils viennent prendre des gardes et partir en intervention. Mais ça ne permet absolument pas d'en vivre. Donc c'est vraiment quelque chose dont on insiste lorsqu'on fait du recrutement. Voilà, c'est une activité en plus qui permet d'avoir effectivement quelques revenus supplémentaires, mais qu'il ne faut surtout pas prendre en compte dans sa vie au quotidien, parce que ça peut être vraiment aléatoire.
Oui, il ne faut pas s'appuyer que sur ça.
Non, absolument
voilà.
Pas.
Et c'est un métier de passion, je suppose.
Oui.
Donc,
oui.
Évidemment. Donc voilà. Un mot à ajouter peut-être, ou est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Mais écoutez, un mot, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur de franchir les portes de la caserne, parce que c'est vrai que pour différentes raisons, les gens n'osent pas forcément venir frapper à la porte de la caserne ou tout simplement déposer une candidature dans la boîte aux lettres. Il faut oser le faire. Il n'y a pas de raison que la candidature n'aboutisse pas à partir du moment où on remplit les conditions. Donc n'ayez pas peur de franchir les portes de la caserne et de poser votre candidature. Et je me permets aussi d'insister, encore une fois, pour les centres de secours qui sont... dans des secteurs un petit peu plus ruraux, où là, vraiment, le besoin est vraiment important. Donc, qu'ils n'hésitent pas, eux non plus, à aller taper à la porte de la caserne. Bien souvent, dans ces centres de secours-là, le week-end, il y a la manœuvre. Donc, la caserne est ouverte et qui n'hésite pas à aller se renseigner pour prendre un engagement.
Le message est passé auprès de nos auditeurs. Et en effet, je pense que... il manquera jamais de pompiers. En tout cas, refuser un pompier, c'est pas possible. Plus il y en a, mieux c'est, je suppose.
Oui, tout à fait. Alors, la seule restriction, on va dire, hein, c'est sur le contrôle des candidatures de sapeurs-pompiers volontaires. On a une partie médicale qui est bien évidemment nécessaire et indispensable, à la fois pour la sécurité de celui qui s'engage, mais également pour la sécurité de celui avec qui il va partir en intervention. Et on a également des indicateurs de la condition physique qui nous permettent de savoir si l'agent, pareil, hein, pour des questions de sécurité, pourra partir en intervention en toute sécurité, et si malheureusement il doit aider son collègue, sera en capacité d'aider son collègue en intervention.
Bien sûr, c'est important pour tout le monde, la sécurité de tous. Bien, merci beaucoup monsieur Nicolas Seignobosque, donc chef de la caserne de Bergerac, qui va changer en fin d'année. Merci d'avoir été avec nous, c'était très passionnant, et surtout voilà, c'est l'occasion quand même de mettre les valeureux hommes et les valeureuses femmes, on n'oublie pas évidemment que vous êtes et qui sauvez des vies, sauvez toutes les personnes de Bergerac, mais je suppose dans toute la Dordogne. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation, merci.
Merci.